BFM Business, la librairie de l'écho, Emmanuel Lechypre.
Bonjour à tous, la librairie de l'écho, l'émission de BFM Business qui vous offre chaque semaine le meilleur de la littérature économique, rouvre ses portes pour la 13e saison, et oui, 13 années de librairie de l'écho. Et comme de coutume, la rentrée se fait ici à la rencontre des entrepreneurs de France du MEDEF depuis le stade Roland-Garros. Alors, une émission toujours un peu différente du format habituel avec quatre auteurs, deux dans la première partie, deux dans la deuxième, avec qui nous allons aborder les grands défis que notre pays, notre société, nos entreprises vont devoir relever et qui seront au cœur des débats qui vont animer cette année d'élections présidentielles. Nous allons renouveler le regard sur l'histoire de France, ses succès, ses échecs avec Baptiste Touvray. Nous allons passer au crible sa politique économique avec Xavier Jaravel. Passer aussi en revue la stratégie de ces entreprises, ce sera avec Moral Chibout. Et puis interroger aussi le rapport de la France au monde et notamment à l'Afrique, ce sera avec Pascal Leroux. Allez, la librairie de l'écho, saison 13, c'est parti. Baptiste Touvray, bonjour, vous êtes normalien, journaliste, traducteur, vous avez été rédacteur en chef de la revue Books et vous publiez votre premier essai, Le Pays Miraculeux, aux éditions Albin Michel. Pascal Leroux, bonjour.
Bonjour Emmanuel Lechypre.
Pascal, vous êtes le fondateur et le président de l'Institut Choiseul. C'est vous qui avez popularisé en France la notion de géoéconomie qui a connu beaucoup de succès et vous publiez Adieu l'Afrique chez Fayard. On commence avec vous, Baptiste Touvray. Le pays miraculeux, c'est la France, un empire improbable qui est parvenu à se muer en état-nation. En gros, vous dites la France est un double miracle politique, un empire qui a survécu, qui a triomphé de son hétérogénéité initiale pour devenir un État-nation. Nous sommes un cas unique dans l'histoire.
Oui, et on n'en a pas assez confiance. C'est-à-dire que toutes les histoires de France ont bien vu qu'il y avait une diversité extraordinaire du territoire français, mais elles n'ont pas osé franchir le pas et dire ce qu'il y a. C'est-à-dire que la France, en réalité, à partir du Moyen-Âge, même si elle porte le nom de royaume, est un empire. Et c'est un empire qui a tellement bien réussi qu'on a oublié qu'il était un empire. La règle générale, c'est qu'un empire s'écroule.
Oui.
C'est vraiment une règle qui n'a pas souffert d'exception dans l'histoire, sauf une, nous.
Parce que nous sommes devenus un État-nation. Ce qui était quand même extrêmement improbable, au vu de l'hétérogénéité, finalement, au bout de cette péninsule européenne, de ce qu'était la France.
Oui, c'est ça. Il n'y avait aucun pays, à la limite, qui était moins destiné à devenir un État-nation que la France. Et non seulement elle y est parvenue, mais elle y est parvenue plus tôt que les autres, et elle y est parvenue en proposant le modèle universel de l'État-nation. C'est pas rien.
Alors, ce qui est fou dans votre livre, c'est qu'en fait, on est habitué à ce qu'on appelle le roman, le récit national français. Et vous dites, vous, mais attendez, la réalité, elle est encore au-delà de ce que fait flamboyer finalement le roman national. Vous dites, il y a eu un millénaire français, il y a eu quelques éclipses, certes, mais il y a eu un millénaire français qui n'a pris fin que récemment. La France a dominé le monde pendant 1000 ans.
Oui, oui, je crois que on n'a pas pris assez la mesure de la France, et y compris le roman national. Moi, je ne fais pas du tout du roman national, je tords pas les faits, c'est très sérieux, c'est savant, mon histoire, mais force est de constater que même le roman national est en dessous de la vérité, et que la vérité est plus extraordinaire encore que le roman national, que si on porte un regard lucide, froid, presque clinique sur les choses, la France, c'est le centre de gravité de l'espace ouest européen, en gros, de Clovis, même si c'est pas encore la France, et je peux m'en expliquer plus tard si vous voulez, jusqu'au 19e siècle. C'est le pôle qui domine démographiquement, souvent culturellement, politiquement, le continent européen.
Alors, si la France a réussi cet exploit, hein, ce que vous décrivez dans votre livre, c'est que nous avons réussi à domestiquer le caractère finalement explosif de notre goût contradictoire pour l'égalité et la liberté, et on a su en tirer le meilleur.
Oui, alors là on est vraiment au cœur du miracle français, parce que qu'est-ce qui a fait que cet empire qu'était réellement la France a réussi à subsister, à se muer en nation, c'est parce qu'il était porteur de deux valeurs héritées en fait de la conquête romaine, qui sont la liberté et l'égalité, qui ne remontent pas à la Révolution française. La Révolution française n'a fait que les expliciter. Le problème de ces deux valeurs, alors le bon côté c'est que les provinces qui ont été annexées par le centre parisien n'ont pas senti l'oppression, elles étaient considérées comme des égales, elles étaient respectées dans leurs usages, leurs traditions, donc elles ont fini par se sentir réellement et pleinement françaises. Le problème, c'est que l'association de ces deux valeurs, liberté et égalité, qui à nous autres français semble aller de soi, en réalité, elle n'est pas du tout naturelle. Elle est explosive. On s'imagine pas à quel point il est difficile pour les individus d'une communauté d'être à la fois libres et égaux. Typiquement, l'individu qui se sent libre et pour qui l'égalité ça compte, il va dire à celui qui veut commander, mais attends, pourquoi tu me commanderais? Je te vaux bien. Or, pour qu'un État fonctionne, eh bien, il faut un minimum de hiérarchie. Et ça a été ça, le grand défi de l'histoire de France. Comment faire avec la liberté, l'égalité, un modèle qui fonctionne? Et la France y est parvenue.
Et y est parvenue grâce... Alors, à ce que vous définissez, c'était une notion assez surprenante qui traverse votre livre. Vous dites, on y est arrivé grâce à notre esprit chevaleresque. Qu'est-ce que c'est que cet esprit chevaleresque à la française?
Oui, c'est l'antidote au caractère explosif, anarchisant de l'alliance égalité-liberté. Alors, en quoi ça consiste, l'esprit chevaleresque? C'est la capacité... pour l'individu de se dépasser pour l'honneur, pour la gloire, au service de la collectivité. C'est-à-dire que l'individu va servir la collectivité, non pas en fait pour la collectivité lui-même, mais pour lui-même, et pour acquérir de la gloire et de l'honneur. C'est ça en deux mots.
Alors, ça, c'est pour vraiment la thèse de votre livre. J'aimerais maintenant qu'on remonte plus traditionnellement, plus classiquement, le fil de l'histoire. Et à chaque époque, il y a des surprises dans votre livre. Vous dites, par exemple, quand on se dit d'où est-ce qu'on vient, nous, les Français? Et on dit toujours nos ancêtres, les Gaulois. Vous dites non, nous, il faudrait dire nos ancêtres, les Romains.
Oui, alors il est possible que y ait beaucoup de gènes gaulois qui se baladent dans la population française. C'est possible, mais c'est pas ça qui fait un peuple, c'est pas ça qui fait une nation. Et si vous voulez, l'arrimage définitif à la grande civilisation, c'est la conquête romaine, qu'on le veuille ou non. Et on parle une langue qui est issue du latin. On ne parle pas gaulois. Et même s'il y a des traces de gaulois, notamment dans la syntaxe, c'est possible. Mais notre psyché a été beaucoup plus influencée par Rome que par la Gaule. Et Rome nous a apporté en particulier quelque chose d'essentiel. C'est la notion d'égalité. Ça vient de là.
Alors, je passe sur 10 siècles finalement de déclin. Au 10e siècle, la France est divisée, ruinée, dépeuplée. Et là, au 11e siècle, se produit un véritable miracle. C'est quoi la nature du miracle français au 11e siècle?
Si vous voulez, il y a un contraste.
Il y a un décollage incroyable.
Oui, oui. Alors, il a ses racines antérieurement. Mais le problème, c'est que l'Empire romain, c'était une impasse. Ça fonctionnait pas. C'était fondé sur la cité-État. Ça a essayé de s'agrandir à l'ensemble du pourtour mitterrandien. C'était une impasse. Il a fallu construire un autre modèle. Il a fallu tout détruire pour construire ce nouveau modèle. Et ce nouveau modèle, il émerge en France. Et il est particulièrement visible à partir du 11e siècle, où on a une espèce de nébuleuse française. C'est pas encore la France. C'est un ensemble francophone de principautés que, dans mon livre, j'appelle la francosphère, et qui fait preuve d'un dynamisme, mais sidérant. Il faut bien avoir en tête que l'Angleterre, à ce moment-là, appartient à cette francosphère. Ça a été conquis par une province française, la Normandie. La même chose pour l'Italie du Sud, même chose pour le Proche-Orient, la Palestine, les croisades, c'est une entreprise avant tout française. Constantinople va être... va être conquise pour la première fois par les Français, etc., etc.
Le siècle d'or de la France, dites-vous, c'est le 13e siècle.
Ah oui, c'est le grand siècle. C'est le grand siècle parce que c'est à ce moment-là que la France, telle qu'on la connaît, se cristallise. Pour moi, la naissance de la France, je la place très précisément à l'année 1204, qui est l'annexion de la Normandie par la petite île de France capétienne. Parce que jusque-là, on avait ces principautés qui étaient en rivalité, qui se faisaient équilibre. Mais après l'annexion de la Normandie par Philippe Auguste, la royauté capétienne devient hors de pair en Occident. Elle pèse, elle double quasiment sa puissance, et à ce moment-là, elle brise l'équilibre qui prévalait jusqu'alors, et d'une certaine manière, le destin de la France est très largement écrit. Il est à peu près évident qu'elle va l'emporter sur une bonne partie des autres principautés et qu'elle va occuper l'espace qu'elle à quelques nuances près. Il y a certaines frontières qui auraient pu être dessinées différemment, mais grosso modo, notre destin s'est décidé à ce moment-là. Le destin d'une France centrée sur Paris.
Alors après, bon, je passe Louis XIV, etc. Mais vous dites, il y a une cassure qui se fait finalement à la fin du 19e ou là finalement
fin du 17e.
17e, pardon, excusez-moi. Avec justement la France qui rate la révolution industrielle un peu quand même.
Alors elle la rate justement de ce qui s'est passé à la fin du 17e. Ce qui se passe à la fin du 17e, c'est que elle amorce sa transition démographique 2 siècles avant tous les autres pays. Et il faut bien imaginer que si la France rayonnait, était le plus puissant des pays, c'est avant tout parce que c'était la Chine de l'Europe. Et il faut imaginer la France d'avant le 19e siècle comme la Chine par rapport à ses voisins, comme les États-Unis par rapport au Canada et au Mexique. C'était ça. Et ça l'est plus parce que les Français se mettent à faire moins d'enfants 2 siècles avant les autres pays.
Alors, il y a eu quand même des moments où la France a été presque à terre, il faut le dire. Et ce qui est quand même assez marquant, c'est qu'à chaque fois, la France s'est redressée rapidement, souvent par l'économie, on pense à Sully, on pense à Colbert, etc., et souvent avec des politiques plutôt quand même des politiques plutôt libérales.
Alors ça dépend ce qu'on appelle par libéral. Si on fait entrer un certain protectionnisme intelligent dans le libéralisme, comme moi je suis tenté de le faire, oui, c'était des politiques libérales. De toute façon, aucun pays n'a réussi son décollage industriel sans au départ une certaine dose de protectionnisme. C'est ce qui a fait la force de l'Angleterre au départ. Mais alors dans le cas de la France, il y a certains abaissements qui sont en partie en trompe-l'œil. Par exemple, la crise de la guerre de 100 ans, c'est en partie en trompe-l'œil. C'est-à-dire que, oui, la France est à terre, mais en réalité, elle est engagée dans une guerre qu'elle ne peut pas perdre. Et elle va la gagner. Pareil contre Charles Quint. On dit qu'elle est entourée par un immense empire, mais en réalité, cet empire, il s'est formé en coalition contre elle, parce que c'était elle qui était ultra-puissante au départ.
Quand on la remet dans la dynamique historique, la France du 21e siècle, c'est une France qui vous paraît engagée dans un déclin durable, c'est une France qui vous paraît avoir tous les moyens de rebondir comme elle l'a fait dans le passé. On a des élections présidentielles en mai 2027. Qu'est-ce qu'il faut qu'on retienne de notre histoire pour voter le mieux possible, entre guillemets?
Mais il faut qu'on la connaisse. Le problème de la France, c'est l'amnésie. C'est que les Français ne savent pas assez qui ils sont, de quelle grande histoire ils sont l'héritier. Et puis surtout, quelles sont les forces en grande partie inconscientes qui s'exercent sur eux, qui font que certains modèles, y compris économiques, ne vont pas fonctionner avec eux. Ils n'ont pas une mentalité qui va s'adapter à tous les modèles. Il faut qu'ils acceptent d'inventer un modèle qui leur correspond à eux, et à eux en particulier, qui s'adapte à leurs valeurs d'égalité, de liberté et à leur esprit chevaleresque.
Le génie français doit encore donc réinventer son modèle. Il n'y a pas un modèle aujourd'hui qu'on pourrait copier.
Non, il faut un modèle qui s'adapte aux réalités du temps. Pendant les Trente Glorieuses, on a eu un modèle qui correspondait à notre mentalité. On avait un État fort, protecteur. On avait des entreprises qui, étrangement, ne misaient pas tout sur le profit, et qui en faisaient énormément. Mais le but, c'était pas de faire de l'argent. C'était de se lancer dans des projets glorieux. Les ponts, les barrages, ensuite les centrales nucléaires.
Donc ça veut quand même
dire c'est exaltant.
Ça veut quand même dire que le monde qui vient, qui est un monde peut-être un peu moins libéral que celui des années 80, 90, 2000, avec plus d'État, plus de géopolitique, plus de frontières, c'est peut-être un monde qui redevient plus favorable.
Ça nous correspondra mieux. Ça nous permettra sans doute de nous retrouver.
Alors, est-ce que nous allons retrouver aussi ce continent que nous avons tant aimé, Pascal Laureau, que nous aimons toujours tant, mais qu'on a quand même un peu perdu, qui est l'Afrique. Vous publiez Adieu Afrique, histoire d'une rupture fatale. C'est chez Faya. Et alors, vous écrivez cette phrase terrible. Ce n'est pas l'Afrique qui nous a quittés, c'est nous qui l'avons perdu. Qu'est-ce qui s'est passé, Pascal Laureau, pour que la France perde l'Afrique comme ça?
Ben, je crois qu'on a accumulé énormément d'errements, de fautes, d'erreurs. Je crois qu'à la base, il y a une véritable incompréhension entre la France, l'Europe et l'Afrique. La vision que l'on a aujourd'hui de l'Afrique, elle correspond à l'Afrique telle qu'elle était il y a 20, 30, 40 ans. L'Afrique aujourd'hui, c'est un continent qui n'a rien à voir avec la façon dont on le perçoit. L'Afrique, c'est bien sûr des difficultés, mais c'est également une volonté entrepreneuriale relativement importante, une jeunesse dynamique qui commence à être bien formée, une démographie bien sûr qui est réelle, mais qui constitue aussi de vraies opportunités. Et puis ce sont des besoins, des demandes qui vont croissantes. Et ce que l'on peut observer aujourd'hui, c'est que nos compétiteurs à l'échelle du continent africain, eux, raisonnent en termes de marché et savent saisir finalement ces opportunités, alors que nous, on reste encore dans le domaine du symbole, dans le domaine du débat, coincé entre une approche, on va dire, par le haut, qui est celle du paternalisme. On a du mal à considérer l'Afrique comme étant adulte, et par le bas, à travers une perception finalement, ou en tout cas une politique où la centralité consiste à battre sa coulpe, être dans la repentance, être dans les fièvres victimaires, etc. Et entre tout ça, finalement, bah, il y a une Afrique qui n'arrive plus à nous comprendre.
On a l'impression qu'on traîne un peu aussi le poids de ce qu'on a appelé la France-Afrique, et dont on fait globalement aujourd'hui un bilan quand même négatif. Vous nuancez quand même ce bilan de la France-Afrique.
Alors, c'est toujours facile de faire un bilan ex post, quelques décennies après. La France-Afrique, au départ, elle n'était pas si négative. En tout cas, elle était perçue positivement par les élites africaines, qui en bénéficiaient d'ailleurs aussi. Peut-être ceci explique-t-il cela. Mais au-delà de tout ça, le débat sur la France-Afrique, il est terminé. On est sorti un peu de cette relation endogamique entre la France et l'Afrique, à un moment où, il faut bien le reconnaître, finalement, la France était un des rares pays encore présents en Afrique. Donc, on était en position relativement favorisée, aisée à maîtriser, et ce qui faisait que finalement on avait des positions relativement importantes et on avait en contrepartie aussi des soutiens relativement importants. Lorsque la France prenait des positions, quelles qu'elles soient au niveau international, on avait toujours 25 voix, plutôt 25 mains qui se levaient pour nous soutenir. Tout ceci est révolu aujourd'hui. La France-Afrique est morte, mais le problème, c'est qu'on n'a pas réussi à y substituer quelque chose de positif.
Alors, le problème, c'est qu'aussi, pendant ce temps-là, pendant que la France parlait, comme vous dites dans votre livre, beaucoup d'autres pays sont venus pour développer, pour construire. Pékin construit des infrastructures, Ankara vend des drones, Moscou fournit de la sécurité, et les pays du Golfe investissent. Et nous, pendant ce temps-là, finalement, on n'a pas fait grand-chose.
La difficulté, on a eu trois types d'errements. Le premier, il est d'ordre économique. Les entreprises françaises, l'économie française au sens large, s'est mise à douter de l'Afrique. L'Afrique, c'est compliqué. C'est vrai, mais il faut se remonter les manches aussi et y aller. Certains réussissent. Les banques françaises se sont désengagées. Ils ont vendu complètement leur réseau bancaire aux établissements financiers et bancaires marocains. Et puis, il n'y a pas de vision claire au niveau de la stratégie de l'État français en termes économiques à désignation de l'Afrique. Sous l'angle politique, la politique de la France à l'égard de l'Afrique, elle est quand même articulée autour d'un certain paternalisme. Finalement, quand on parle à l'Afrique, c'est un petit peu le maître d'école qui parle à ses élèves. Quand on convoque en 2020 les 5 présidents du G7 Sahel à l'époque à Pau, on leur demande pas l'autorisation, on les convoque.
Sauf que donc, Pascal Laureau, aujourd'hui, quand on lit votre livre, on se rend compte que c'est plus la France et l'Europe même qui ont besoin de l'Afrique que le contraire.
Mais bien sûr, parce que nous, on parle de transition transition énergétique, transition environnementale, etc., de réindustrialisation, de militarisation de certains pans de notre économie. Comment on fait si on n'a pas les minerais stratégiques? Et où sont les minerais stratégiques encore disponibles qui n'ont pas été captés par la Chine? N'oubliez pas quand même que 70% des minerais stratégiques sont aux mains des Chinois. 90% de la transformation de ces minerais stratégiques est le fait de la Chine. L'Afrique, c'est le seul continent où la France et l'Europe ont encore des possibilités finalement de s'inscrire dans une dynamique partenariale d'égal à égal avec un continent qui a une certaine proximité historique, culturelle, géographique avec nous, où on arrive à se comprendre mutuellement et où il y a des réserves, des ressources finalement que nous on n'a plus ou on n'a pas sur notre continent. Donc il va falloir réfléchir et repenser complètement notre coopération, réfléchir et repenser complètement la façon dont on traite de l'Afrique pour faire en sorte que l'Afrique ce soit maintenant un partenaire que l'on traite d'égal à égal et non pas avec une approche très paternaliste comme c'est encore aujourd'hui le cas.
Est-ce que la francophonie est encore un atout?
Oui, c'est un atout. Quand on partage la même langue, on arrive à bien se comprendre et on se comprend plus facilement qu'avec des langues étrangères. Et quand on voit de toute façon la démographie africaine, on sait que la francophonie, c'est quelque chose qui a de l'avenir. À horizon de 2050, lorsqu'on atteindra le cap de 2,5 milliards d'habitants en Afrique, on aura à peu près 700 millions de francophones, peu ou prou. À horizon de 2100, lorsque 40 à 50% de l'humanité vivra en Afrique, ce qui explique aussi le futur central de l'Afrique à l'échelle du globe, eh bien vous aurez entre 900 et 1,2 milliard de francophones. Donc la francophonie, ça serait une langue ou un sujet africain, plus que français ou européen. Donc bien sûr, c'est un atout. Mais encore faut-il traiter et utiliser cet outil de manière positive, en se mettant chacun autour de la table, d'égal à égal, c'est encore ce que je disais tout à l'heure. Il n'y a pas un pays ou une nation qui est meilleure que les autres. On doit, surtout aujourd'hui, à mesure que les frontières sont ouvertes, que la concurrence s'est multipliée, on doit être traité finalement sur un pied d'égalité.
Sauf que Pascal Leroux, vous dites le compte à rebours tourne et que le temps passe très vite et qu'il ne nous reste plus beaucoup d'années. Mmh. Si on veut renouer des liens rénovés avec l'Afrique pour finalement y arriver, vous dites si d'ici 5 ans on n'a rien fait, les liens entre la France et l'Afrique, ce sera ce que sont les liens aujourd'hui entre le Brésil et le Portugal, c'est-à-dire une vague histoire commune et puis dont il ne reste rien en fait.
Tout à fait. Je crois que la démographie est importante pour comprendre aussi les enjeux. Aujourd'hui, l'âge médian en Afrique, c'est 19 ans. C'est-à-dire que la plupart des Africains aujourd'hui n'ont pas connu la période coloniale, n'ont pas connu la période juste post-coloniale. Donc ils sont vraiment dans une ouverture d'esprit totale qui fait que la France est perçue comme étant un partenaire potentiel comme d'autres. Et parmi un grand nombre d'autres qui viennent, qui sont présents, qui investissent, qui se mobilisent pour être présents en Afrique et accompagner l'Afrique dans son développement et dans sa future centralité à horizon d'un demi-siècle. Donc on a besoin de réagir maintenant. Réagir maintenant, ça veut dire parler différemment à l'Afrique, ça veut dire aussi s'y intéresser. Qui connaît aujourd'hui l'Afrique ? Peu de personnes. Et quand on la connaît, finalement, on en a souvent une image négative parce que le prisme des dirigeants en France et en Europe, c'est de voir l'Afrique à travers deux prismes. Le prisme de l'immigration et le prisme du terrorisme ou de l'insécurité, qui sont des vrais sujets, mais il y a des enjeux positifs.
Et puis le prisme des républiques mal gouvernées, mal dirigées, des politiques macroéconomiques un peu hasardeuses, de la corruption, etc.
Oui, mais
est-ce que parce qu'à chaque fois on a parlé souvent de décollage africain et les espoirs ont été souvent déçus, mais est-ce qu'on a conscience que l'Afrique est définitivement rentrée dans une phase développement intense?
On a un biais de vision. On parle toujours de l'Afrique. Il faudrait parler des Afriques. L'Afrique, c'est 54 pays, c'est 30 millions de kilomètres carrés. C'est-à-dire que dans ce continent, vous prenez les États-Unis, vous les mettez dedans, vous rajoutez la Chine, 9 millions de kilomètres carrés, le sous-continent indien, le Japon, la Corée, la petite Europe, il reste encore de la place. Donc ça veut dire qu'il y a une pluralité, une diversité immense de situations, que ce soit en termes de gouvernance, en termes de population, de langue, de culture, d'histoire, etc. Et c'est vrai qu'il y a des problèmes de gouvernance dans certaines régions africaines, mais il n'y en a pas qu'en Afrique, quand même, ne l'oublions pas. Mais il y a des endroits où ça fonctionne très bien.
On a l'impression
que le décollage est arrivé.
Oui, mais justement, on a l'impression, Pascal Leroux, que dans l'état d'esprit des Français, en fait, il y a tout un pan de l'Afrique qui est l'Afrique anglophone qui n'est pas dans le scope, dont on fait totalement abstraction. On a l'impression que, en fait, l'Afrique pour les Français, c'est l'Afrique francophone et c'est tout.
Oui, ça c'est le leg de l'histoire d'une certaine manière. Et c'est la raison pour laquelle aussi moi j'appelle à ce qu'on ait des approches très différenciées en fonction des géographies, en fonction des langues, en fonction des opportunités finalement pour nos entreprises. Même l'Afrique francophone, elle n'est pas unie, c'est pas un bloc. Vous avez des régions ou des sous-régions qui fonctionnent bien, d'autres qui fonctionnent moins bien. C'est pareil pour les pays anglophones, c'est pareil pour les pays aussi de langue portugaise et puis lusophone. Donc nous, on se doit en tant que Français d'essayer de voir quelles sont les vraies opportunités par rapport à nos capacités finalement à apporter quelque chose à l'Afrique et définir des stratégies qui soient adaptées à ces différentes sous-géographies.
Pour terminer, Pascal Leroux, un jeune Africain de 25 ans qui hésite aujourd'hui entre Paris, Pékin, Dubaï, Istanbul ou Washington, qu'est-ce que vous lui dites pour le convaincre de choisir la France ?
Alors moi je suis très patriote, donc je trouverai plein d'arguments pour lui dire de venir. Mais je pense que le jeune Africain de 25 ans aujourd'hui, il est pas du tout dans ses logiques de conséquences, un peu de l'histoire coloniale ou quoi que ce soit. Il va voir quelles sont ses opportunités personnelles et collectives aussi peut-être pour sa communauté et aller vers celui qui va lui apporter le plus. Et c'est vrai qu'aujourd'hui l'offre qui émane, vous les citiez tout à l'heure, de la Chine, de la Russie, des Émirats, du Brésil, de l'Inde, etc. Les offres sont relativement riches et je suis un peu dubitatif quant à notre capacité à être à même niveau en termes d'offres pour un jeune Africain de 25 ans.
Merci beaucoup à tous les deux. Je rappelle vos deux ouvrages, Baptiste Touvray, Le Pays Miraculeux. Et oui, messieurs, dames, ce pays miraculeux, c'est la France et c'est aux éditions Albin Michel. Et puis Pascal Leroux, Adieu Afrique. On voit le clin. Non. Oui, Adieu Afrique. J'avais peur d'avoir mis dans le sens Michel Sardou. Pardon. voilà, ça s'appelle Histoire d'une rupture fatale. C'est chez Fayard. Allez, on se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de l'émission.
BFM Business, la librairie de l'écho. Emmanuel Lechypre.
On se retrouve pour la deuxième partie de cette librairie de l'écho de rentrée. Première émission de la 13e saison donc de la librairie. On passe maintenant au banc d'essai des politiques économiques et des méthodes de management des entreprises françaises. Xavier Jaravel, bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Xavier, vous êtes professeur d'économie à la London School of Economics, président du Conseil d'analyse économique et vous publiez avec Emmanuel Monnet, Mathieu Perruyero et Vincent Ponce les politiques économiques à l'épreuve des faits. C'est chez Odile Jacob. Moral Chibout, bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Moral, vous avez une longue expérience de dirigeant que vous conseillez aujourd'hui. Hein. Vous avez sévi chez Orange, chez EDF, Autolib, qui se rappelle vraiment de ce fabuleux projet qui était Autolib chez Casino.
Grande innovation.
Voilà, et vous publiez les 7 péchés du management chez Duno. On commence avec vous, Xavier Jaravel. Le point de départ de votre livre est simple. Et vous dites en gros, bon, on débat beaucoup des politiques économiques à partir d'idéologies, de théories, d'intuitions, d'exemples isolés. En fait, il faudrait d'abord commencer par les évaluations empirique qui permettrait d'établir véritablement si les politiques économiques sont efficaces ou pas. Ça paraît bête, mais on le fait jamais.
On le fait jamais parce que c'est effectivement un exercice qui est difficile. Et donc c'est pour ça que ça nous a semblé nécessaire de prendre le temps d'écrire un livre pour faire cet exercice dans un contexte de polarisation où on a presque une polarisation de la réalité. C'est-à-dire que les uns et les autres vont percevoir des choses très différentes sur les mécanismes économiques qui pourraient être à l'œuvre sur la dette publique, les inégalités, l'emploi. Et donc, on a voulu prendre le temps avec donc mes trois co-auteurs pour essayer de mettre les choses à plat et le faire de manière assez simple, en fait, avec un retour historique d'abord, qui est assez court. Qu'est-ce qui s'est passé ces dernières années?
Ouais.
Et ensuite, une analyse qui essaye de en fait faire l'état de l'art dans la science économique, mais aussi en prenant en compte les contraintes qui sont celles des décideurs publics pour voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Donc on fait ça avec les méthodes de la science économique et donc on est 4 à co-signer le livre mais on s'est beaucoup appuyé sur en fait les travaux de nombreux collègues et donc chaque chapitre a été relu par toute une série de collègues et donc au final le livre essaye d'être simple mais pas simpliste, c'est-à-dire simple, c'est-à-dire que tout le monde peut comprendre ces questions qui peuvent sembler complexes mais en fait pense que ça se comprend bien, ça se lit bien, mais pas simpliste, c'est-à-dire qu'on rentre à chaque fois dans les arbitrages, le coût, le bénéfice de telle ou telle politique.
Alors il y a beaucoup de choses qui sont vraiment des leçons puissantes, je trouve, de votre livre. D'abord, une politique économique. Son succès dépend finalement beaucoup du moment où elle est appliquée, de l'état où elle est appliquée. Ce qui est frappant, c'est qu'on se dit, allez, finalement les gens de gauche, ils nous disent toujours que la solution c'est plus de dépenses publiques, plus de fonctionnaires, plus de réglementations. Que les libéraux, ils nous disent toujours, bah au contraire, il faut moins de contraintes, moins de fiscalité, moins d'état, etc. Et vous dites, bah en fait, la bonne politique, elle dépend surtout de l'état du patient finalement qu'on doit traiter.
Ouais, effectivement. Donc là, on est très concentré sur la France. Ouais. On prend aussi des exemples étrangers. Donc parfois, effectivement, des pays dans des situations différentes, bah, les politiques qui marchent sont un peu différentes. Mais on peut quand même apprendre pas mal des exemples étrangers, des choses qui ont été faites à grande échelle. Par exemple, sur l'éducation, qui est un des grands problèmes de la France, dégradation du niveau éducatif depuis une trentaine d'années, conséquences économiques importantes. Plusieurs pays, le Portugal, l'Angleterre, ont fait des réformes d'ampleur. Et à la fois ces réformes et des études scientifiques plus circonscrites nous permettraient de faire un plan à grande échelle. Donc ça, c'est un des exemples de ce qu'on propose dans le livre.
Mais par exemple, pour la France, on voit que très clairement, il y a des périodes où la France aurait plutôt besoin de politiques dites de l'offre, qui visent à renforcer les entreprises. Et puis on se dit, bah, à d'autres moments, c'est peut-être plutôt des politiques qui visent à stimuler la demande. Mais encore une fois, pas d'idéologie là-dedans.
Exactement. Quand vous avez une récession, évidemment, les politiques de soutien à la demande sont nécessaires. En revanche, si on regarde l'état du pays aujourd'hui, par rapport à d'autres pays, la France est plutôt un pays qui se caractérise par une situation où le problème, c'est plus les inégalités à la racine que la redistribution, plus un déficit de productivité et donc d'offres que de demandes en général.
Alors, vous insistez aussi beaucoup sur finalement que les politiques économiques, c'est aussi beaucoup une question de dosage. Hein, vous prenez par exemple l'exemple d'une hausse du salaire minimum, dont la théorie nous dit globalement, bah si vous augmentez le salaire minimum, bah ça va détruire de l'emploi. Vous dites, bah non, c'est une question de dosage. Si on l'augmente un petit peu, ça détruit pas forcément des emplois. Si on l'augmente beaucoup, oui, ça détruit des emplois.
Non, parce que certaines théories vous disent effectivement ça va détruire des emplois, mais d'autres théories vous disent que ça peut être en fait bénéfique à l'emploi si l'employeur a un pouvoir de marché, c'est-à-dire qu'il maintenait des salaires artificiellement faibles parce qu'il avait un pouvoir de marché. Et donc en pratique, on voit que dans différents pays, et là aussi qui sont avec différents niveaux de salaire minimum par rapport au salaire médian, vous avez des effets différents. Et donc la France est plutôt encore dans un cas où on pense que augmenter un peu le salaire minimum n'aurait pas forcément des conséquences importantes sur l'emploi. Et donc ça, par exemple, c'est un cas où on a fait ce travail de revue de la littérature, d'échange avec des collègues, et on a abouti à cette conclusion qui n'était pas franchement une conclusion à laquelle on s'attendait au moment où on a commencé à écrire le livre.
Alors, vous insistez énormément sur l'évaluation. De dire bah voilà, on teste une politique économique, ça marche, ça marche pas. Pourquoi on n'a pas cette culture de l'évaluation en France, et qu'en fait quand une politique marche pas, on a tendance à lui rajouter une couche différente mais sans supprimer ce qui marche pas.
Alors c'est vrai qu'on a moins une culture de l'évaluation que d'autres pays, notamment il y a beaucoup de pays où le Parlement a des outils d'évaluation beaucoup plus forts. Et donc peut-être que c'est le point que je mettrais le plus en avant, c'est que dans l'architecture institutionnelle, les outils d'évaluation sont plutôt à la main de l'exécutif, d'administration puissante, par exemple le Trésor, et donc à la main de l'exécutif qui souvent est plus dans l'effet d'annonce. Et donc bien sûr à terme, on veut voir s'il y a des résultats, mais la dynamique politique et médiatique met souvent beaucoup l'accent sur l'annonce. D'ailleurs ici on est à la REF aujourd'hui, il y aura beaucoup d'annonces de politiques ou de futurs candidats. Il y aura beaucoup moins de restitutions, d'effets, de ce qui a marché ou de ce qui n'a pas marché. Donc je pense qu'il y a un aspect culturel, et puis après il y a aussi un aspect qui est que l'évaluation c'est jamais facile. Et ça devient en fait de plus en plus facile parce qu'on a aujourd'hui plus de données à disposition. Et donc on est dans une situation où on pourrait, je pense, beaucoup plus intégrer l'évaluation au processus de conception des politiques publiques. Un exemple concret, vous avez un grand plan d'investissement qui s'appelle France 2030. C'est 50 milliards sur une dizaine d'années. Vous pouvez faire une bonne évaluation. D'ailleurs, on va en sortir une d'ici quelques semaines qui va s'avérer bonne. vous faire de la bonne évaluation, parce que vous avez des entreprises qui sont aidées, d'autres qui ne sont pas aidées, des lauréats, des non-lauréats qui sont assez comparables. Et donc, vous pouvez voir au fil de l'eau quels appels à projets créent des effets d'aubaine, où une entreprise aidée peut-être s'en serait sortie sans aide publique, parce qu'elle aurait pu trouver un financement privé, par exemple. Et donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire au fil de l'eau. Mais si vous ne vous forcez pas à le faire, si vous ne créez pas un enjeu, donc par exemple, dans ce cas-là, vous pourriez dire, on va faire une évaluation et au bout de 5 ans, on va réallouer 30% des appels à projets, c'est-à-dire que ceux qui ne fonctionnent pas, les 30% les moins bons seront arrêtés et on décalera les crédits vers les autres. Ça créerait une incitation pour toute la machine administrative, politique et médiatique pour mettre l'évaluation au cœur du processus de conception et d'évolution des politiques publiques. Alors qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui souvent arrive après coup, avec un effet souvent assez limité sur la décision politique. Parfois, ça a des effets, mais c'est encore plutôt l'exception, à mon sens, que la règle.
Xavier Jaramel, quelles sont les grandes erreurs de politique économique qu'a fait la France au cours des 20 ou 30 dernières années ?
À l'évidence, aujourd'hui, on est dans une situation où la situation des finances publiques n'est pas bonne. Et donc, de ce point de vue-là, le quoi qu'il en coûte était nécessaire au moment de la crise. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'on a engagé des dépenses pérennes lors du quoi qu'il en coûte. Donc, en fait, on a créé un déficit qui était durablement plus élevé. Et en même temps qu'on réduisait certaines recettes fiscales, là aussi, de manière pérenne. Et en fait, en sortie de crise, pour plusieurs raisons, on n'a pas vu immédiatement que les recettes allaient baisser de manière durable. Et donc, maintenant, on se retrouve avec cet écart entre dépenses et recettes qui est très important et qui constitue un peu une camisole de force, notamment pour la prochaine mandature, quelle qu'elle soit.
Et alors, inversement, est-ce qu'il y a des politiques économiques qui sont peut-être passées sous le radar, qu'on n'a pas bien vues et qui ont eu des effets, finalement, assez spectaculaires ?
Par exemple, j'évoquais le cas de France 2030, ce plan d'investissement. Il s'avère que c'est un plan qui a très, très bien marché, notamment sur cette partie appel à projet. C'est-à-dire que vous organisez une sorte de compétition, concurrence entre des entreprises qui vont postuler pour financer des projets innovants. Et donc, on peut montrer à travers l'évaluation que c'est un programme qui a des effets d'entraînement très très forts, à tel point, et ça reboucle avec le sujet finances publiques, à tel point que l'État rentre dans ses frais en moins de 5 ans. C'est-à-dire que l'argent dépensé permet de booster la trajectoire des entreprises aidées, donc elles augmentent leur chiffre d'affaires, le nombre d'emplois, etc. Donc ça augmente les recettes fiscales, et en fait en moins de 5 ans, l'État a rembourser sa propre mise grâce aux recettes fiscales qui ont augmenté. Et c'est quelque chose qui se produit très 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 rarement. Souvent les politiques autofinancées, par exemple dans l'éducation, c'est des choses qui se font à beaucoup beaucoup plus long terme. 20, 25 ans plus tard, l'État peut rentrer dans ses frais. Pour les plans d'innovation, comme France 2030, quand ils sont bien conçus, ça peut marcher vraiment à une échéance beaucoup plus brève. Et donc c'est à la fois un succès et peut-être aussi un succès en demi-teinte, parce que c'est pas un plan massif. C'est un plan qui aujourd'hui tend à être réduit dans son ampleur, dans le contexte de contraintes budgétaires. Et donc, un des messages, c'est qu'il faut mettre davantage le paquet sur la productivité et les aides comme France 2030.
Est-ce que dans ces politiques économiques à l'épreuve des faits, il y a des pistes intéressantes à suivre en matière, par exemple, de politique commerciale, en matière de politique écologique et environnementale?
Alors sur la politique commerciale, effectivement, on est à un moment de l'histoire où il y a un changement majeur sur l'approche de la mondialisation. Toutes les évaluations jusqu'ici montrent que les approches protectionnistes sont néfastes aux pays qui les mettent en œuvre. C'est-à-dire que c'est plutôt les consommateurs qui tentent à payer les hausses de tarifs douaniers. C'est parfois les entreprises, quand c'est des hausses de tarifs douaniers sur des intrants qui sont utilisés pour la production, mais c'est rarement l'étranger. Et donc notre approche, c'est plus de dire qu'il faut une approche ciblée. Vous faites une liste des vulnérabilités stratégiques, parce que ce qui a changé, c'est qu'on est dans un environnement géopolitique qui est maintenant plus menaçant, dangereux, donc il ne faut pas évidemment regarder ailleurs et oublier ce contexte. Mais il ne faut pas avoir une réponse qui soit non ciblée. Et donc de ce point de vue-là, l'approche de Donald Trump est une approche qui est, je pense, contre-productive pour les États-Unis. Il faut à l'inverse se cibler sur certains segments stratégiques et aussi créer des dépendances réciproques. Par exemple, sur les semi-conducteurs, on est très dépendant de Taïwan pour les semi-conducteurs en tant que tels, mais les machines qui sont utilisées pour ces semi-conducteurs de dernière génération viennent de ASML, l'entreprise néerlandaise. Donc l'Europe, en fait, est donc plutôt dans une bonne situation du point de vue de la chaîne de valeur des semi-conducteurs.
Et sur le climat, Xavier Jaramel, c'est quoi le bon dosage, par exemple, je sais pas, entre taxe carbone, réglementation, investissement public?
La taxe carbone est un outil qui est plus efficace du point de vue des finances publiques. C'est-à-dire que ça coûte beaucoup moins cher en termes d'impact sur les émissions, de passer par des outils de type taxe carbone. Ça ne veut pas forcément dire taxe carbone pour les personnes, par exemple taxe carbone à la pompe, mais plutôt des systèmes comme le système d'échange de quotas qui existe au niveau européen, qui va être étendu, qui va toucher maintenant 40% des émissions. Et donc ça marche bien, et notamment du point de vue du rapport coût-efficacité. Et il y a aussi tout l'enjeu d'adaptation au changement climatique qui est beaucoup moins fort aujourd'hui dans les politiques climatiques. Et on a vu cet été que c'est nécessaire. Donc tout ce qui a trait avec l'isolation des logements, des écoles, des EHPAD, etc.
Vous avez un dernier chapitre assez fort, Xavier Jaravel, dans votre livre, où avec vos camarades, finalement, vous faites le lien entre la fragilisation de la démocratie, la qualité des institutions et justement la capacité à conduire des réformes ambitieuses.
Oui, parce que les réformes qui fonctionnent, pour être portées dans la durée, il faut qu'elles fassent l'objet d'un certain consensus politique. Et précisément parce qu'on est dans une phase de polarisation, avec aujourd'hui une assemblée divisée, donc on n'arrive même plus à mettre les politiques en œuvre. Et plus généralement, la polarisation peut conduire à changer totalement de braquet, de direction, d'une mandature à l'autre. Et donc, certaines formes politiques, comme par exemple les élections législatives à la proportionnelle, sont de nature, à notre sens, à créer un meilleur équilibre qui reflète la diversité des positions politiques, qui est une réalité de notre pays et de beaucoup d'autres pays, sans pour autant créer de l'instabilité quand on utilise les bonnes règles de la proportionnelle. Donc, c'est-à-dire, on le décrit dans le livre, à un niveau qui est pas trop large, ni trop restreint en termes de taille de la circonscription.
Alors, voilà pour nos politiques macroéconomiques. Voilà ce qui se passe dans les ministères au plus haut niveau du pouvoir. Voyons maintenant, Moral Chibout, avec vous, ce qui se passe au plus haut niveau de décision dans les entreprises. Alors, vous connaissez ça par cœur. Vous avez dirigé beaucoup d'entreprises. Vous conseillez aujourd'hui des dirigeants. Et alors, dans vos 7 péchés du management, vous revenez finalement sur tout ce qui fait la fragilité, la faiblesse de l'entreprise. Moi, la première leçon que j'ai retenue de votre livre, Moral Chibout, c'est qu'en fait, on se dit, mais les entreprises qui se plantent, c'est rarement pour des problèmes de mauvaise stratégie, etc. C'est essentiellement pour des problèmes de rapports humains, de relations humaines entre les gens qui sont chargés de faire vivre cette entreprise.
Non, mais c'est exactement ça. Bonjour. Ce que je raconte dans le livre, finalement, au fond, c'est, je veux dire, on a un certain nombre d'enjeux. On a des cerveaux dans notre pays et on a un certain nombre d'enjeux. Les enjeux sont, aujourd'hui, on va vivre deux choses. On va vivre une grande révolution qui s'est déjà en cours aujourd'hui, notamment des révolutions technologiques. Quand on regarde aujourd'hui ce qui se passe en France et ce qui se passe dans le monde, on a l'IA et son écosystème qui est assez compliqué. On a une révolution technologique autour de ce qui va arriver, l'informatique quantique. On a la 6G. On a aujourd'hui la robotique et puis tout ce qui va tourner autour de l'humanoïde. Et donc ça, c'est le premier grand enjeu. Ces grands enjeux-là vont amener derrière, finalement, au fond, des modifications de comportement des consommateurs, deux, sur l'usage même de ces outils. Et ce que je dis dans le livre, c'est que finalement, au fond, nous sommes pas prêts, parce que nous sommes avec un management du passé.
Là, vous, les managers, vous n'êtes pas prêts.
On dit aujourd'hui, le management actuel, il n'est pas prêt pour le management du futur. Et c'est assez intéressant. Et le livre, il est très pratique et très opérationnel, parce qu'il raconte la vraie vie.
Alors, il raconte la vraie vie, il raconte la France, il raconte comment ça se passe ailleurs. Est-ce qu'il y a finalement un mode de management à la française ?
Oui, alors déjà, dans les 7 chapitres, je mets un certain nombre d'exemples qui sont typiques à la France. Je raconte, deuxième chose, donc c'est une analyse un peu complète. Deuxièmement, je raconte finalement vraiment comment ça se passe à l'étranger. Et puis, je raconte comment l'IA éventuellement va bouleverser ça. On va prendre un cas très simple, par exemple, la réunionite.
Voilà.
Que j'appelle la réunionite aiguë.
C'est le premier de vos 7 péchés capitaux des managers.
Ouais. C'est exceptionnel. Nous sommes les champions du monde de la réunionite aiguë.
Vous dites que c'est une forme de paresse sophistiquée.
C'est une paresse sophistiquée et c'est une manière habile d'enterrer un certain nombre de problèmes. C'est-à-dire que dès qu'on a un souci, on crée des réunions supplémentaires. Or, le problème de nos réunions aujourd'hui, c'est que on vit finalement au fond la conséquence du mode de fonctionnement des entreprises. C'est-à-dire que, un, c'est un mode qui est très centralisé. Toutes les décisions remontent au niveau supérieur. Deuxièmement, on est dans un système où on donne assez peu de marge de manœuvre aux collaborateurs et aux opérationnels purs. Et la troisième raison, c'est qu'on a des niveaux hiérarchiques qui sont très importants. Il y a des entreprises en France où ça descend à N-8, N-9.
C'est pas comme ça ailleurs.
Alors c'est complètement différent. Alors, il peut y avoir des entreprises, mais quand vous regardez le mode de décision aux États-Unis, en Scandinavie, au Japon, parce que je fais des analyses assez complètes, on s'aperçoit qu'il y a une réactivité qui est beaucoup plus importante. Et c'est ce que j'explique à l'intérieur, c'est qu'on est dans l'espèce de centralisme démocratique, pour faire un joli jeu de mots, du mode de fonctionnement. Et donc, vous annihilez complètement les modes de décision. Regardez des exemples très simples. Dans la réunion pour la décision, il y a des exemples trois simples. Jeff Bezos, en gros, aujourd'hui, il dit, c'est 30 minutes, pendant 30 minutes, on lit le dossier, on réfléchit, on décide. Moi, j'ai vécu des centaines de comités de direction et des COMEX. Vous avez les présentations qui vous arrivent le dimanche soir et on vous demande de prendre une décision pour le lendemain. C'est pas très sérieux. Or, quand vous regardez ce qui se passe à l'étranger, c'est complètement différent. Pourquoi ? Parce qu'on accepte, à un moment ou à un autre, ce manque de rigueur totale. Ça, c'est une chose qui est quand même très, très importante et qui annihile, finalement, au fond, complètement les systèmes de décision.
Alors, il y a plusieurs de vos péchés capitaux qui portent finalement sur des péchés qui pourraient se rapprocher des péchés de la Bible. C'est donc oui. Donc c'est l'orgueil, l'envie, tout ça. Mais on a l'impression que c'est terrible. C'est-à-dire qu'en gros que beaucoup de dirigeants dans les COMEX par exemple ne pensent qu'à à eux, se comparent sans cesse aux autres, etc. Qu'il y a un orgueil démesuré. Qu'il y a une incapacité de leadership qui se manifeste souvent par un autoritarisme malvenu. Enfin, je veux dire, on a finalement beaucoup de travers.
Alors, on a beaucoup de travail, mais il faut ce qu'on appelle du courage managérial. Ce qui est intéressant, parce que le thème de la REF aujourd'hui, c'est le courage. Alors déjà, il faut avoir le courage pour écrire un livre pareil.
C'est vrai que le thème de la REF aujourd'hui, c'est ça, c'est le courage. Ouais,
donc, il faut avoir du courage managérial. Et je pense que ce qui nous manque globalement et collectivement, c'est une vraie logique de courage managérial. Alors, l'essai, il est à la fois critique et constructif. C'est-à-dire qu'il est basé sur une histoire, mais aussi l'interview de 200 copains, des copains et copines, DG, directeurs marketing. Donc, toute une histoire de gens qu'on connaît par des clubs et autres, ce qui est intéressant. Deuxièmement, je raconte. Donc, premièrement, je raconte. La deuxième, c'est que je détaille finalement ce qui se passe. Trois, j'analyse. Et ensuite, je donne des perspectives. Et notre souffrance à nous, elle est quand même assez simple. Est-ce qu'on sait aujourd'hui qu'en France, une entreprise de 5000 salariés, c'est 100 millions d'euros les coûts de réunion? Ce qui est énorme. Est-ce qu'on sait aujourd'hui qu'un manager toxique dans une entreprise, ça coûte 1 million d'euros à l'entreprise? Aujourd'hui, on tolère dans nos entreprises des managers toxiques. En se disant finalement, au fond, ils font avancer les affaires. C'est pas très grave si les dégâts humains sont importants, ce qui est complètement faux.
Mais est-ce qu'il n'y a pas déjà en France un problème sur le casting du manager?
Alors bien sûr qu'il y a des castings de
manager. C'est-à-dire qu'en gros, le manager, ça va être souvent celui qui est le plus compétent techniquement qu'on va promouvoir, mais qui n'est pas forcément le meilleur pour animer des équipes, vous voyez?
Oui, alors parce que notre système français de management est un système centralisé qui est quand même très important. Enfin, il y a un truc qu'il ne faut pas oublier, c'est que dans nos entreprises, regardez, 90% des grands managers, ils sont issus à la fois des écoles d'ingénieurs, de l'ENA et des grandes écoles de commerce. Alors, on accepte, mais c'est comme ça aujourd'hui. Et ce que je dis aujourd'hui, souvent, il y a une logique d'hors-sol par rapport à la réalité. Et je pense qu'il y a un décalage entre la réalité et la manière dont on manage. Regardez un truc très important. Le client, par exemple. Nous sommes aujourd'hui un des pays qui est le plus loin de la réalité du client. C'est quand même, on a tous des expériences clients.
Oui, vous dites ça, c'est très français.
C'est très français.
Vous appelez ça la luxure moderne, en fait.
Mais c'est une luxure moderne.
En gros, l'entreprise cherche à séduire un client qu'en fait, elle ne connaît pas.
Mais c'est un client de papier. En général, dans les réunions, les gars, ils regardent le client comme si finalement c'était un objet non identifié. Or, la réalité, c'est que le client, il appelle à 22h, le client, il a des problèmes, et qu'on n'aime pas le client qui râle. On aime bien le client qui va bien, qui se porte bien, et qui rapporte du business à l'entreprise. Or, aujourd'hui, les insatisfactions sont totales. Un exemple très simple. On a tous voyagé. On utilise tous les produits. Moi, j'étais dans un avion il y a peu de temps. Il avait 4 heures de retard. Je reçois un message d'une compagnie française, aérienne, qui me dit, je voudrais savoir si votre vol s'est bien passé. Ben, non, il s'est pas bien passé. J'avais 4 heures de retard. Est-ce que quelqu'un vous appelle? Jamais. Mais allez aux États-Unis, au Japon et d'autres entreprises en Scandinavie, vous avez eu un problème, on vous appelle. Or, le système de management est assez intéressant pour ça. On gère avec deux KPIs, pour ceux qui connaissent bien l'entreprise. Un, le Net Promoter Score. Alors, on se dit, allez, c'est bien, on est à 40, on est super bon.
Mais c'est quoi?
Alors, c'est comment, finalement, au fond, le taux de recommandation d'entreprise que vous aurez après avoir utilisé ces produits. Et les taux de satisfaction. Tout ça, ça veut rien dire. Ça veut rien dire aujourd'hui. À l'ère de l'IA et au développement des réseaux sociaux, on se plante sur une satisfaction client, les dégâts sont beaucoup plus importants. Avant, on disait, allez, un client, si un client satisfait, c'est 1 sur 7. Aujourd'hui, c'est 1 sur 100. Vous faites une bêtise, une connerie, pour pas dire autrement, c'est 100 clients qui sont mécontents. Or, aujourd'hui, nous sommes le pays où le client est le plus loin de la réalité. Moi, je l'ai raconté. Moi, quand je suis arrivé chez Cdiscount, la première des choses que j'ai fait, les types étaient là, c'était formidable. Des gens formidables, que j'embrasse d'ailleurs au passage. Le comité de direction se passe. Plaisante des slides, la première question que je pose, c'est, et le client, il est où dedans? Et qu'est-ce que je fais? Moi, il me raconte des trucs, je comprends rien, moi, ce qu'il me raconte. Du premier jour, je vais dans un centre d'appel. Et j'écoute. Ça passe 3 jours, écoutez 300 clients. Et puis, je discute avec les gens, je discute avec les collaborateurs. Et puis, je m'aperçois que finalement, au fond, tout ce qu'on nous racontait, c'était pas tout à fait ce qui était. Donc, des notes que je disais, c'était pas ça. Donc, il y a un décalage entre la réalité et ce qui va se passer demain. C'est comme beaucoup de sujets. C'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, on a une vraie réflexion de fond dans le management. Aujourd'hui, l'arrivée de l'IA, moi, j'ai une interrogation de fond. Le grand remplacement, c'est pas ce qu'on pense, c'est l'IA. Quand aujourd'hui, vous apercevez qu'il va y avoir entre, en fonction des analyses, à 2032, c'est-à-dire à la fin du prochain quinquennat, on parle entre 2 millions et 5 millions de personnes qui vont se retrouver au chômage, de cadres. Sur 30 millions de personnes qui travaillent en France, ça nous amène à nous poser des vraies questions. Donc le grand remplacement, c'est l'IA, c'est pas autre chose. Et donc aujourd'hui, je pense que globalement, à la fois les politiques et les entreprises ne prennent pas la mesure de ce qui va se passer demain. Et c'est ce que j'explique à l'intérieur. Et c'est, finalement, au fond, c'est cette dichotomie entre la réalité, pour certains hors sol, et la réalité de ce qui nous attend demain. Je pense qu'on n'est pas préparé, en tout cas.
Bon, quel conseil vous donnez pour devenir un bon manager?
Aujourd'hui, si finalement, au fond, je dis la première des choses, c'est que, un, il faut beaucoup d'humilité. Deux, quand ils ont une entreprise qui vend des produits et qui touche les clients à la fois du B2C, marché grand public, il faut être obsédé par le client central. Ben, regardez ce que faisait Jeff Bezos. Jeff Bezos, il avait un truc très simple, il disait finalement au fond, j'ai une chaise vide et je mets le client. Il n'y a aucune entreprise qui le fait aujourd'hui. Moi, quand j'étais manager opérationnel, maintenant je suis plus un peu de point de vue en hauteur, moi j'allais, je lisais, je faisais lire les courriers des clients à l'intérieur. Donc il faut de l'humilité. Et la troisième des choses, il faut aussi se projeter. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans des batailles d'ego, on est dans des batailles d'intérieur, on est dans des batailles de survie, ce qui peut se comprendre humainement. Je pense qu'à un moment ou à un autre, on doit regarder l'avenir, parce que l'avenir risque de nous échapper.
Mais est-ce qu'il y a des pays, Morald, qui ont des systèmes de production des managers qui sont plus performants que d'autres? Est-ce qu'il y a certaines cultures, certaines trajectoires d'éducation qui permettent de former des meilleurs managers?
Alors, je ne sais pas s'ils forment mieux. Ce que je dis aujourd'hui, c'est que on a un système qui est fait qu'à un moment ou à un autre dans un système de reproduction d'élite. Il n'y a pas de remise en cause. Parce que finalement, au fond, le système reconnaît les gens qui ont fait les LAP, Polytechnique, avec tout le respect que c'est pour eux et les grandes écoles. Or, aujourd'hui, quand vous allez aux États-Unis, en Scandinavie, au Japon, c'est pas la chose primaire qui fonctionne. Aujourd'hui, la première chose qu'on regarde en France, c'est ton niveau de diplôme. On regarde pas ton expérience personnelle, ta capacité à t'être planté.
Est-ce qu'il faut mettre des managers à la tête du pays pour redresser la France, Morald Chibout?
De temps en temps, on devrait se poser la question. En tout cas, ils devraient être un peu moins hors sol qu'ils ne le sont aujourd'hui. Okay. Il y a un sujet central aujourd'hui, je le répète, c'est que je pense qu'à un moment ou à un autre, l'impact de l'IA sur l'emploi et sur l'économie globalement doit être posé sérieusement, ce qu'elle n'est pas aujourd'hui.
Tiens, Xavier Jaravel, je vous repose la même question pour conclure. Est-ce que des profils de grands dirigeants d'entreprise, ça pourrait être des profils adéquats pour faire les réformes dont la France a besoin? Dans le passé, ça n'a pas toujours été finalement couronné de succès. Ce genre
pourquoi
de
pas détails. Je pense que plus que, de mon point de vue, plus que trouver le profil miracle, il faut plutôt avoir cette dynamique collective qui passe par, voilà, comme on disait, éviter les dynamiques d'ego, avoir des institutions politiques qui permettent une forme de concertation, ouais, et une forme de consensus. Et alors qu'aujourd'hui, on est dans une dynamique de polarisation.
Merci beaucoup à tous les deux. Je rappelle vos ouvrages, Xavier Jaravel, Emmanuel Monnet, Mathieu Perruyero, Vincent Ponce, Les politiques économiques à l'épreuve des faits. Je vous le présente dans le bon sens, et c'est chez Odile Jacob. Et puis les très bons conseils avisés de l'expérimenté Morald Chibout, les 7 péchés du management, comment nos entreprises s'auto-détruisent, c'est chez Duno. Et ben, on se retrouve la semaine prochaine pour une librairie de l'écho qui aura regagné les studios de BFM. Et d'ici là, bien évidemment, bonne lecture.